Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Direction le Népal pour ce débat. Le 12 septembre dernier, Sushila Karki a été élue sur le réseau social Discord, première ministre du Népal par près de 200 000 Népalais. Une première mondiale, la conséquence d'un mouvement de protestation de la génération Z népalaise qui a secoué le pays et a vu réduit en cendres le Parlement, la Cour suprême et le principal bâtiment administratif du gouvernement. Alors comment comprendre le mécontentement de cette génération ? Et au-delà d'une révolution sur les réseaux, quelles en sont les racines profondes, historiques ? Deux invités ce soir pour nous éclairer. Emmanuel Véron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'Asie, chercheur associé à l'INALCO. Face à vous, Marie Lecomte-Tilouine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, spécialiste du Népal. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Nous ne resterons pas ici plus de 6 mois. Quelle que soit la situation, nous assumerons nos responsabilités et nous nous engageons à passer le relais au prochain Parlement et au prochain ministre. Dans les jours à venir, nous devons travailler en nous inspirant de la façon de penser de la génération Z. Ce que ce groupe réclame, c'est la fin de la corruption, une bonne gouvernance et l'égalité économique. Nous devons être déterminés à y parvenir.
La voix de la nouvelle première ministre de transition, Sushila Karki. Et il faut, pour commencer, Emmanuel Véron, poser le décor. On n'est pas forcément familier avec ce pays, son régime, ses traditions politiques, ses responsables politiques également. Comment cette révolution est survenue au début du mois de septembre ?
Je crois que ce qui est important de noter dans ces mouvements et dans ces troubles et dans les revendications d'une large partie de la population népalaise, qui est par la même la jeunesse en fait du Népal, population d'en dessous de 30 ans, c'est le sujet lui-même de la démographie du pays, le visage démographique du pays, corrélé à des logiques de népotisme, de problématiques de répartition des richesses, corrélé à des problématiques de chômage, c'est une population, et d'un problématique de développement économique tout simplement du pays, qui figure dans les classements internationaux onusiens et autres, comme PMA, pays les moins avancés, c'est-à-dire les moins développés, des infrastructures lacunaires, problématique d'une économie qui est peu diversifiée, encore dominée par une économie primaire, rurale, peut-être 40-50% de la population active, qui tire ses revenus, le pays, essentiellement des revenus internationaux d'une population qui a migré en Asie du Sud, beaucoup en Inde, sur des chantiers au Moyen-Orient ou ailleurs en Asie du Sud-Est, et puis par des prêts et par du soutien international. On retrouve ici l'Inde, on y reviendra, parmi les fournisseurs principaux avec la Chine derrière.
Je me dis, Emmanuel Véron, en écoutant votre explication, qu'il y a un décalage abyssal entre ces motifs que vous exposez et ce que j'ai lu régulièrement dans la presse française, occidentale, européenne depuis plusieurs jours, qui explique que cette révolution, c'est d'abord une révolution qui s'est passée sur les réseaux sociaux, qui a débuté par le blocage de 26 plateformes ordonnées par le gouvernement népalais fin août 2025, et dans le fond, c'était la première révolution numérique. Est-ce que là aussi cela a joué un rôle ?
Et oui, dans les contrastes, la société népalaise, il y a la problématique du développement, mais il n'y a pas la problématique, si je puis dire, des réseaux sociaux, des plateformes numériques, notamment largement utilisateurs de cette même jeunesse. Et aujourd'hui, dans les décisions autoritaires du régime d'avoir coupé une partie des réseaux sociaux, c'est quelque part un moyen, un levier. On l'a observé dans d'autres mouvements de colère, notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, etc., qui vient amplifier les revendications de cette jeunesse, etc. Pourquoi ? Parce que c'est couper des moyens de communication, c'est couper des moyens d'échange et quelque part d'expression d'une jeunesse qui est éclatée dans le monde, notamment ce qu'on évoquait au Moyen-Orient, en Asie du Sud, avec les familles restées dans les territoires ruraux, autour de Pokhara par exemple, dans le Terai ou ailleurs, dans la partie himalayenne des montagnes.
Marie Lecomte-Tilouine, quel rôle a joué ? Est-ce que ça a été un élément déclencheur important justement, l'interdiction de ces plateformes au Népal ?
Oui, je pense que vous utilisez le bon terme, c'est un déclencheur. Je pense que expliquer les mouvements de révolte ou les révolutions par des contextes économiques, politiques, etc., n'est jamais tout à fait exact, en particulier dans le cas de ce mouvement, puisqu'il y a vraiment un effet de surprise pour la génération Z en particulier.
La génération Z, hein, je le précise d'un mot, c'est les 15-30 ans aujourd'hui environ. Hein.
Voilà. Donc, ce sont ces très jeunes gens qui ont décidé, en fait, de ne pas laisser faire le gouvernement qui les privait de leur plateforme de discussion et d'information, mais qui avaient laissé toutefois TikTok. Et donc, en fait, ils se sont tous retrouvés sur une seule plateforme et ils ont diffusé un mot d'ordre qui a été suivi par une trentaine de groupes différents. Ils ont été eux-mêmes très surpris de se retrouver aussi nombreux dans la rue qui mène au Parlement. Et donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte.
Racontez-nous,
oui,
justement.
Voilà. Alors, ils étaient censés s'arrêter à un point qui est symbolique, l'hôtel Everest, où la police avait mis une corde de sécurité. Mais en fait, la police elle-même n'avait pas prévu qu'il y ait une telle foule de jeunes. Et ces jeunes, en fait, bien, ils n'ont pas trouvé d'obstacle. Ils ont continué au-delà de cette limite qui était très symbolique. Ils sont arrivés aux portes du Parlement. Ils ont commencé à le caillasser et à aussi à ébranler les portes, etc. Ce qui fait que les forces de l'ordre, en fait, ont été paniquer et qu'ils ont reçu, on ne sait pas exactement de qui, l'ordre de tirer à balles réelles.
Sur la foule.
Voilà, sur ces très très jeunes gens, souvent en costume d'écolier. C'était même pas forcément des étudiants au sens où nous on l'entend, mais plutôt des lycéens pour beaucoup.
Et on décompte à ce jour 72 morts parmi justement ces jeunes qui ont été visés par les balles. Emmanuel Véron, ce qui a frappé aussi, vu depuis la France, vu depuis l'Europe, ce sont ces institutions népalaises prises par le feu, abîmées, j'allais dire directement attaquées. Là aussi, comment est-ce que vous lisez ces images ?
La colère concentrée par cette jeunesse du Népal, c'est très largement focalisé sur des dimensions très symboliques du pouvoir, du népotisme et du manque criant de répartition des richesses et des marqueurs de développement du pays. Bref, c'était une manière symbolique, disais-je, de concentrer la colère qui se transforme en des mouvements de violence, clairement, puisqu'on a eu des images avec des membres du gouvernement et autres qui fuient à travers des rivières, qui fuient, etc. Des gens blessés, des gens morts, côté élite politique, etc. Donc, panique côté des élites politiques népalaises, avec des sorties parfois du territoire, ou en tout cas des solutions de repli, etc. Donc, une scène chaotique qui va durer quelques heures, quelques jours, ce qui montre bien que, quelque part, dans la représentation de ce népotisme, de cette problématique de corruption systémique au sein de la population du Népal, il y a bien ces lieux de pouvoir qui ont été pris d'assaut et pour certains en partie détruits ou en tout cas largement ébranlés.
Ce qui est fascinant, c'est que cette génération Z s'est retrouvée sur cette plateforme Discord et 200 000 d'entre eux ont élu une nouvelle première ministre. On l'a entendu, on a donné son nom. Elle s'appelle Sushila Karki. C'est l'ex-présidente de la Cour suprême, Marie Leconte-Tillouine. Comment s'est passée cette élection? Comment, dans le fond, 200 000 personnes dans un pays qui en compte 31 millions ont légitimé l'arrivée au pouvoir de cette première ministre de transition?
Oui, alors apparemment, il y avait quand même un consensus sur cette plateforme Discord, mais les négociations ont été menées par le chef de l'armée. Je pense que c'était, il cherchait quelqu'un qui fasse un consensus très large au-delà de cette génération Z.
Qu'est-ce qui fait consensus chez elle alors?
Alors, c'est sa réputation d'intégrité, c'est le fait qu'il s'agisse d'une femme, première femme, premier ministre Népal, ce qui n'est pas rien. Je pense qu'il y avait peut-être, alors finalement il y a un décalage très important entre sa génération, puisqu'elle est particulièrement âgée, et celle des jeunes qui l'ont portée au pouvoir. Bon, il y avait d'autres options, mais de personnes de toute façon qui n'étaient pas prêtes à occuper ce poste intérimaire, car elle est vraiment en charge d'organiser les élections qui doivent se dérouler au début du mois de mars. Elle n'a pas d'autre rôle. Hein. C'est également pour ça, je pense qu'ils avaient une certaine confiance dans sa capacité à vraiment mettre en œuvre ce programme de nouvelles élections et peut-être de quelques changements.
Je vous pose la même question, Emmanuel Véron. Qu'est-ce qui légitime le fait que 200 000 personnes qui se retrouvent sur Discord, 200 000 jeunes, transforment le paysage politique d'un pays, le Népal, si subitement ?
Et la question est, est-ce que cette application sur Discord et les 200 000 personnes ont véritablement transformé le visage politique du Népal ? La réponse est probablement pas, probablement non. Cette nouvelle première ministre était connue de l'élite du Népal, mais il y a probablement, si je puis dire, la réorganisation du pouvoir au Népal, la volonté de mettre en avant cette dame. Et on l'évoquait tout à l'heure, c'est les forces armées du Népal qui sont aux commandes. Notamment, on y reviendra tout à l'heure, parmi elles, leurs liens assez étroits, d'un côté avec la Chine, de l'autre avec l'Inde, et c'est pas complètement neutre, mais cela montre bien cette capacité d'un pouvoir au Népal et d'une instabilité politique assez aussi structurelle.
Hein, depuis des années, depuis 2008 notamment.
Un peu moins de 20 ans, on compte sous votre contrôle 15 ou 16 premiers ministres. Donc on a cette forme d'instabilité politique avec des lignes de force politique dont l'armée, et ici c'est illustré relativement discrètement, en dehors bien évidemment de l'action violente, pour reprendre la main, reprendre l'initiative, plus que réorganiser le visage politique du Népal. Et pour terminer très brièvement, la crise est arrivée aussi subitement qu'elle s'est pratiquement éteinte, si je puis dire, et retombée. C'est dire la profondeur de ce pays, quelque part tenu par des équilibres politiques très complexes, très très complexes, entre le domaine militaire, où il n'y a pas d'unanimité d'ailleurs, et puis les différents partis, notamment parti maoïste et marxiste-léniniste.
On va revenir justement sur ce paysage très singulier. Emmanuel Véron, avant tout, vous avez employé un terme à plusieurs reprises depuis le début de cet échange, celui de népotisme, qui irrite très très largement cette population dite génération Z. Comment ce népotisme s'incarne-t-il ? Comment s'illustre-t-il très concrètement ?
Eh bien, probablement dans les lacunes de développement du pays lui-même. C'est un pays qui fait en 2024 à peu près 42, 43 milliards de PIB, de dollars, ce qui est très faible, très peu. On le disait, une économie qui est peu diversifiée, encore assez dominée par l'agriculture, qui est elle-même pas très développée.
Des jeunes qui ont un mal fou à trouver un emploi.
Un mal immense, et donc qui sont contraints à des boulots journaliers à Katmandou, donc problématique d'immigration au sein du pays, des campagnes vers des espaces urbains, et puis sortir du territoire, notamment en Inde, puisqu'on a 1, 2 ou peut-être plus encore millions de Népalais en Inde, et une diffusion en Asie du Sud-Est, et on l'évoquait au Moyen-Orient. Voilà les sources essentielles de revenus, en plus des crédits accordés par l'Inde comme soutien et comme lien diplomatique avec le Népal, idem pour la Chine. Il y a des mines, il y a la trajectoire de l'hydroélectricité, notamment proposée par la Chine, mais on n'y est pas. On a un accaparement des richesses dans le cadre des aides, qui sont bien souvent détournées, et on a un listing de vies opulentes qui contraste tout à fait avec des populations extrêmement pauvres, dans les espaces ruraux, mais pas uniquement, pauvreté urbaine, notamment à Katmandou.
Vous êtes d'accord, Marie Lecomte-Ilouine, dans le fond, le premier grief qui est adressé aux élites aujourd'hui au Népal, c'est d'abord et avant tout, et le népotisme, et la corruption ?
Oui, je crois, en tout cas, clairement, dans les slogans qui ont pu être affichés sur les pancartes des manifestants, et également, finalement, dans les cibles qui ont été les leurs, puisque au-delà de mettre le feu au Parlement, au bureau du Premier ministre, à la Cour suprême, et en fait, pratiquement toutes les administrations à travers Singh Darbar, ils s'en sont pris très directement aux propriétés privées des hommes politiques et des ministres, ainsi qu'à celles de leurs enfants.
Et notamment des hôtels.
voilà, le fameux hôtel Hilton. Ils s'en sont pris aussi à la presse mainstream, les médias Kantipur, dont la tour a été brûlée. En fait, on pourrait vraiment faire une lecture des revendications de cette population qui n'était plus limitée à la génération Z le lendemain du 8 septembre, donc le 9 septembre. C'était une réaction massive. En fait, en regardant la carte de ce qu'ils ont attaqué, ce qui fait passer un message vraiment très très clair. Alors bien sûr, ce n'est que la population urbaine. Ça a été beaucoup la vallée de Katmandou hein, qui a été prise pour cible. Alors, parmi les cibles dont on a assez peu parlé, il y a les prisons. Et ça, c'est quelque chose d'important, puisque environ la moitié des prisonniers au Népal se sont évadés. Ce qui est assez colossal, hein, puisque... bon. Le Népal est un pays où on emprisonnait très très peu jusqu'à la démocratie. Depuis 2006, le nombre de prisonniers ne fait que croître. Avant, il y avait beaucoup plus de justice coutumière, mais donc il y a à peu près 30 000 prisonniers et la moitié qui sont sortis. Et au nombre des victimes, il faut considérer qu'il y a une dizaine de prisonniers, donc dans les 70. Finalement, les forces de l'ordre, en plus d'avoir tué une trentaine de jeunes écoliers, étudiants ont aussi tué de très jeunes prisonniers, puisque ce sont d'abord les centres de prisonniers juvéniles qui ont été libérés par les manifestants. C'est aussi un message pour dire, vous êtes une classe politique très corrompue, vous gagnez énormément d'argent, vous avez beaucoup de propriétés mal acquises et vous emprisonnez des jeunes pour des faits qui sont parfois mineurs.
On compte au total, pour aller dans votre sens, 13 500 détenus hein, qui ont quitté les prisons népalaises. J'ai appris ce matin par une dépêche, fait étrange, que certains étaient naturellement revenus au bercail, naturellement revenus en prison pour finir leur peine. Je ne sais pas si c'est de l'anecdote ou si c'est une tendance générale, mais en tout cas, voilà. On va donner la voix à certains manifestants et tenter de comprendre justement les raisons qui les ont poussés à entrer dans cette mobilisation.
Pourquoi y a-t-il autant de colère ici ? Les médias internationaux pensent que cela est dû à l'interdiction des réseaux sociaux. Mais non, cette frustration s'accumule depuis plus de 20 ans, alimentée par la corruption. Nous en avons tous assez.
Le gouvernement a peut-être interdit les réseaux sociaux parce que la vérité était devenue trop visible. Leurs secrets ont été révélés. Nos dirigeants ont choisi de les fermer pour se cacher.
Ce pays est le nôtre, celui de la génération Z. Tous les hommes politiques ont fui, ces politiques sont corrompus et ne travaillent pas. Nous avons besoin d'un jeune dirigeant, nous voulons le changement. Le temps des vieux dirigeants, c'est fini.
On va revenir sur la figure de ce jeune dirigeant dont certains membres de la génération Z népalaise rêvent actuellement. Mais avant cela, Emmanuel Véron, il faut dire un mot du système politique que vous avez évoqué rapidement. C'est un système au nombre de partis hallucinants, tous d'obédience marxiste-léniniste, en tout cas la plupart d'entre eux, avec un lien particulier également avec des deux pays étrangers, l'Inde et la Chine. Tout cela aussi dans une proximité relative avec le militaire. Alors, décryptez-nous tout cela.
Oui, probablement que cette complexité politique du Népal est le fruit de la guerre civile et des ruptures avec le système féodal qui lui précédait, et de monarchie.
Donc, guerre... La monarchie, on le rappelle, hein, c'est 2008 au Népal.
2006-2008, après une grosse dizaine d'années de guerre civile, dans lesquelles se sont illustrés, se sont structurés, ont été armés d'ailleurs, la notion d'armes et d'armement est importante, un certain nombre de partis politiques qui parfois ont été en contradiction, parfois se marchant les uns les autres pour arriver à leur fin. Vous avez évoqué la dimension marxiste-léniniste qui est essentielle, la dimension maoïste qui est essentielle. Pourquoi ? Parce que on remonte ici à l'élaboration des relations diplomatiques du Népal à partir du début des années 50, dans un contexte hier de tiers-monde, aujourd'hui de pays émergents, certains diraient de sud global, où le Népal, pays sans littoral, sans accès à la mer, fait de montagnes et de vallées et de plaines, etc., un relief particulièrement marqué, est quelque part coincé entre deux grands, deux géants, deux empires asiatiques, qui eux-mêmes prenaient leur essor, d'un côté indépendance de l'Inde en 47, proclamation de la République populaire de Chine en 49, bref, dès le début des années 50, le Népal, dans sa trajectoire politique interne, va connaître une forme d'influence particulière de cet entre-deux sino-indien et notamment le paysage politique que l'on connaît actuellement. Si bien que au sein des partis politiques népalais d'aujourd'hui, il y a parfois des lignes plutôt pro-indiennes, parfois des lignes plutôt pro-chinoises. Elles-mêmes ayant eu des relations de financement, des relations politiques, de formation de cadres, de formation de militaires, avec l'un ou l'autre, parfois les deux. Bref, le Népal, au niveau de sa politique, va essayer de jouer sur les deux niveaux, le niveau chinois, le niveau indien, et bien évidemment l'Inde jouera le Népal contre la Chine jouera le Népal contre l'Inde. On est fondamentalement sur cette logique d'intermédiarité et qui se traduit dans le paysage politique du Népal.
C'est cela, Marie Lecomte-Tillouin, le clivage véritable politique au Népal aujourd'hui, choisir son camp, la Chine ou l'Inde, bien plus que dans le fond, la lecture, l'exégèse des textes marxistes.
Non, je crois pas, parce que je crois que leur situation fait qu'ils peuvent ménager la chèvre, le chou, ils l'ont toujours fait.
L'Inde et la Chine, donc.
Oui, puisque c'est une sorte d'état tampon, en fait. Donc, ils peuvent jouer une carte, plus ou moins, mais en fait, ça se balance. Le fait qu'il y ait ces deux puissances qui ont, on va dire, un poids démographique, économique, militaire à peu près équivalent, le Népal n'est pas vraiment inquiété entre les deux. Et il joue des aides, notamment, qu'il peut recevoir des uns et des autres. En ce moment, c'est très important pour lui, puisqu'il y a vraiment un énorme projet de reconstruction de tous ces bâtiments, souvent historiques. Et donc, on voit, par exemple, dans les réseaux sociaux, beaucoup de Népalais qui disent qu'il est très important qu'on reste dans un cadre constitutionnel, sinon on n'aura pas d'aide internationale. Mais pour revenir sur les partis politiques au Népal, il y a quand même quelque chose qui est très particulier au pays, c'est qu'il n'y avait pas de partis politiques jusqu'en 1951. Il y avait donc une sorte d'autocratie des premiers ministres. Le roi n'avait qu'un rôle rituel. Il a été réinstallé en 51 grâce au gouvernement de Nehru et il a été en charge en fait d'instaurer une démocratie multipartiste, ce qu'il a fait, mais tout de suite dans un mouvement d'antagonisme avec les partis politiques et donc une violence qui s'est installée, propagée au pays, ce qui a conduit ce souverain à bannir les partis politiques en 59.
Il appelait ça une démocratie universelle, c'est un concept atypique, avec un parti.
Une démocratie, non, sans parti, voyez-vous. Ce qu'il appelait plutôt une démocratie basique. Mais c'est un type de démocratie qui a séduit jusqu'à la gauche indienne, hein, puisque il s'était présenté par le souverain comme un type de démocratie qui ne serait pas d'inspiration occidentale, contrairement aux partis politiques, et où il n'y aurait pas de parti, mais bien des élections universelles au niveau villageois et puis quelque chose de pyramidal, bon, qu'on n'a pas le temps de développer. Mais ça veut dire que les Népalais, en fait, depuis 1960 jusqu'en 90, n'ont eu aucune connaissance de partis politiques. Il y en avait des embryonnaires basés en Inde, mais ils étaient clandestins. Et donc, ils ont une relation avec les partis politiques qui est très très différente des autres contextes, de la plupart des autres contextes du monde, et c'est aussi un pays qui n'a jamais été colonisé. Donc voilà, il y a beaucoup de particularités de ce pays qu'il faut mentionner, puisqu'on a des schémas un peu tout tracés, pensant que ça s'est passé partout un peu pareil sur la planète. Là, c'est pas le cas. Et donc, les partis ont continué à être antagonistes avec le parti maoïste, en fait, d'une certaine façon, à partir de 80 quand ils ont banni ce coup-ci le parti maoïste du jeu parlementaire, ce parti est devenu l'ennemi des sept autres grands partis. Et donc, en fait, il y a une histoire d'antagonisme avec les partis politiques qui traverse toute l'histoire récente du Népal. Et ça s'est de nouveau exprimé, en fait, après le puissant séisme de 2015, où on a vu, là, vraiment, les forces de ce qu'ils appelaient la société civile s'opposer au gouvernement qui voulait évidemment la mainmise sur toute l'aide étrangère, le milliard donné par la Chine avec le milliard donné par l'Inde, parce qu'ils donnent toujours à peu près la même chose, c'est aussi symptomatique de cet équilibre. Et en fait, donc, là, il s'agit de plus jeunes, mais même les plus anciens ont cette histoire très longue d'antagonisme des partis politiques qui depuis quelques années maintenant font un jeu de chaises musicales avec des alliances contre nature entre l'extrême gauche et la droite, etc. Tout est en fait possible pour garder le pouvoir.
C'est ce que j'allais dire, cet antagonisme historique que vous décrivez, il est renforcé, décuplé aujourd'hui par le fait que ces partis, dans le fond, sont tout à fait éloignés de leur propre idéologie, nouent des alliances dans le seul but de rester au pouvoir, sans fondement avec ce qu'ils peuvent prêcher par ailleurs. Il faut nous expliquer, Emmanuel Véron, pourquoi ces deux grands empires, l'Inde, la Chine, regardent le Népal. Qu'est-ce qui les intéresse? Quels intérêts y ont-ils aujourd'hui?
Alors, le sujet remonte effectivement au début des années 50 ou à la toute fin des années 40, contexte de guerre froide, de reconnaissance des frontières dans le cadre des indépendances d'un côté indien et de proclamation de la République populaire de Chine de l'autre côté de la frontière. Et d'un point de vue chinois d'abord, l'idée depuis Pékin de contrôler les plus hautes terres du monde, à savoir le Tibet, et d'y imposer son empreinte, une empreinte chinoise, une empreinte sinisée, communiste, maoïste, avec le contrôle des territoires, mais aussi le contrôle des ressources, puisque c'est la région de l'Asie d'où partent la plupart des grands fleuves asiatiques.
Ce symbole, pardonnez-moi, ce symbole des plus hauts sommets du monde, il est important dans la vision chinoise?
Il est fondamental. Il est fondamental parce que qui contrôle les hauts contrôle les bas, et qui contrôle le Tibet, contrôle l'Himalaya, contrôle une large partie de l'Asie. Et géographiquement, le Népal est en bordure de cette immense région de montagne, et en plus de cela, en continuité territoriale, bordure avec l'Inde, le rival stratégique durable de la Chine, déjà sous l'ère Mao. Côté indien, après 47, il y a politiquement cette importance de rayonner, cette importance de politique dite tiers-mondiste, Nehru et après, on se souvient de Bandung en 1955, et de travailler, si je puis dire, l'influence indienne, notamment en Asie, et d'avoir un contrepoids au discours chinois maoïste dans ce même contexte tiers-mondiste.
Bangdoug, on rappelle d'un mot ce que c'est, la conférence de Bangdoug,
conférence des non-alignés,
des non-alignés pour éviter d'être entre les deux blocs URSS et Amérique.
Et à l'intérieur de cet immense bloc qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, certains de sud global, qui sont en fait des pays émergents et en développement, non occidentaux, le poids de l'Inde et de la Chine est fondamental, fondamental, et en concurrence permanente. Et le Népal se retrouve géographiquement, politiquement, géopolitiquement, à l'intermédiaire de ces deux puissances, et donc il était impératif, tout de suite, dès 1950, dès 1951, de lancer une diplomatie chinoise de main tendue en direction du Népal, notamment pour les frontières, notamment pour des échanges diplomatiques, et puis plus discrètement des échanges entre les forces armées, entre leurs services de sécurité, etc. C'est une manière d'avoir une influence et un regard, quelque part, un balcon sur l'Union indienne, et d'avoir un point de contact directement sur l'Union indienne.
Qui prend le dessus alors aujourd'hui, Marie Lecomte-Tillouine? Est-ce que c'est l'Inde ou est-ce que c'est la Chine? Vous évoquiez les montants similaires, 1 milliard d'un côté, 1 milliard de l'autre. C'est, j'allais dire, presque kiff-kiff aujourd'hui.
Oui, alors là, ça c'est symbolique, et de même, au moment justement où le Népal a promulgué sa constitution en 2015, où donc l'Inde n'était pas satisfaite du sort qui était réservé aux populations frontalières, en fait, qui sont indiphones, hein, qui est donc sur lesquelles elles ont un petit droit de regard de leur point de vue, la frontière a été fermée pendant plusieurs semaines, et donc on a vu arriver des convois de camions chinois pour ravitailler en kérosène. Évidemment, c'était symbolique parce que c'était quelques camions, c'est pas ce qui allait faire rouler tous les véhicules au Népal. Mais voilà, la Chine est toujours très attentive à faire des actions qui soient très populaires, et elle ne fait pas, elle commet très très peu, on va dire, de bévues. Enfin, elle a une façon très adroite de faire des interventions. Par exemple, après le séisme, elle a même fait intervenir l'armée de libération du peuple sur le sol, sur le territoire népalais. Ça n'aurait pas été accepté du tout de l'armée indienne par les Népalais. Ils sont paradoxalement beaucoup plus proches de l'Inde, évidemment. Il n'y a pas de frontière avec l'Inde. Il la traverse comme il le souhaite. Ils parlent à peu près la même langue, en tout cas la même famille, et ils comprennent très très bien leur langue puisqu'ils regardent beaucoup le cinéma en hindi. En fait, tout naturellement, il est très très simple de traverser la frontière avec l'Inde de tous côtés, alors que il y a que quelques passes et quelques voies récemment ouvertes qui permettent d'accéder en fait non pas vraiment à la Chine, mais uniquement à cette province autonome qui est le Tibet. Vous voyez que ça fait donc en fait une distance géographique qui n'a absolument pas de comparaison avec ce qui se passe côté indien, qui est une province extrêmement peuplée de l'Uttar Pradesh, qui est frontalière avec le Népal.
Sans prétendre lire Emmanuel Véron dans le Mar de Café, si on se tourne maintenant vers la suite, l'avenir de ce mouvement dit mené par la génération Z, quel est-il ? Peu de figures, dans le fond, ont émergé, de figures politiques, de nouveaux visages permettant d'incarner véritablement ce mouvement. On parle d'un homme en particulier, le maire actuel de Katmandou, ancien rappeur, jeune trentenaire. Est-ce que c'est en lui que se placent les espoirs pour l'avenir ?
Probablement. C'est au regard, vous l'avez décrit, de la biographie du personnage du maire de Katmandou, probablement que ça pourrait être l'un des personnages clés politiques pour le Népal de demain. Ceci dit, on n'observe pas de messages significatifs actuellement, post-crise, faisant...
C'est-à-dire, il n'y a pas de mot d'ordre ?
Exactement, on n'a pas de mot d'ordre, on n'a pas du tout de choses qui permettraient de laisser entrevoir que ce personnage serait le prochain Premier ministre ou autre au Népal. C'est dire, on le disait, mais c'est dire la prégnance d'une génération au pouvoir qui a effectivement une expérience politique souvent de la guerre civile, 20 ans en arrière, qui est encore aujourd'hui en vie, entre 70 et 80 ans, parfois au-dessus de 80 ans, et qui est, on peut le dire, très travaillée à la fois par des sphères d'influence indiennes, du fait de leur proximité, soit par la langue, ethno-religieuse, etc., mais aussi très travaillé par la Chine populaire. Simplement, j'en terminerai par là, le précédent Sharma Oli avait fait le choix pour son premier déplacement lors de son dernier mandat en tant que Premier ministre, premier déplacement international à Pékin plutôt que New Delhi. Il y avait, entre guillemets, du pick and choose, en mauvais français, d'une bascule, ou en tout cas d'un choix assumé de se tourner davantage vers Pékin. D'ailleurs, Pékin, j'en tiens vraiment par là, dans sa politique des nouvelles routes de la soie, a essayé de ramener dans sa sphère d'influence en Asie du Sud le Népal, notamment à travers la construction, le financement, qui n'ont pas véritablement abouti, à la fois de barrages et d'autres infrastructures.
Marie Lecomte, dans quelques mots, la façon dont vous voyez l'avenir de ce mouvement, est-ce que cela peut déboucher dans 6 mois, dans le cadre de la prochaine élection du Premier ministre, vers un début, un embryon de changement ?
Eh bien, certainement, je ne lis pas l'avenir, mais ce que je vois, c'est qu'il va sans doute se reproduire ce qui s'est passé après les accords de paix entre les guérillas maoïstes et les forces gouvernementales et la fusion des deux armées révolutionnaires et nationales. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas eu du tout d'amnestie et du coup, il y a eu une période où tout était en suspens parce que chacun était inquiet de ce qui pouvait se produire. Là, on voit bien que les jeunes veulent que les responsables des morts dans leur rang soient punis, et les responsables à tous les échelons, et en même temps, visiblement, les forces de l'ordre reçoivent des dizaines de milliers de vidéos des exactions commises par les jeunes dans les propriétés privées, en demandant à ce qu'ils soient poursuivis et punis.
Merci beaucoup, ça m'a passionné de me plonger dans les agitations politiques du Népal que je ne connaissais pas du tout du coup. Merci de vos lumières par conséquent, Emmanuel Véron, spécialiste de l'Asie, chercheur associé à l'INALCO, et Marie Lecomte-Tilouine, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, spécialiste du Népal. Et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Antoine Héral, Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vincey. Juste après le journal, alors que la France reconnaîtra l'État de Palestine, une question à partir d'autres exemples, Kosovo, Taïwan et Chypre. Question simple, à quoi sert-il de reconnaître un État ?